ярче солнца. Шар превращается в колоссальный светящийся купол. Яркое свечение еще продолжается. В этом опыте разбиться необычайно долго.
Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode du Footballski Podcast, le premier d'une mini-série de 4 qui va vous présenter chacun de nos pays qualifiés pour cette Coupe du Monde, points forts, points faibles, pronostics. Et bien évidemment, puisque le mondial se déroule en Russie, nous sommes sur le pied de guerre. Premier épisode par ordre chronologique, hein, on va commencer par la Russie qui ouvre sa compétition demain face à l'Arabie Saoudite à Moscou. Pour le match d'ouverture.
Et donc pour discuter du pays hôte et de cette Coupe du Monde en Russie, j'ai avec moi deux personnes éminentes de la rédaction de Footballski. Tout d'abord Adrien Laitier, salut Adrien.
Salut Quentin, salut Vincent, bonjour à tous.
Adrien évidemment ancien habitant de Tcheliabinsk qui porte toujours dans son cœur, alors que de l'autre côté de la Russie, il y a Vincent Tanguy, ancien habitant de Moscou. Salut Vincent.
Salut Quentin, salut Adrien.
Alors avec vous deux, on va discuter de tout ce qui concerne la Zbornaïa. Tout d'abord, on va commencer par une question qui a pas mal fait discuter lorsque la Russie a été désignée comme organisatrice de la Coupe du Monde. Il y a pas mal eu de discussions sur le fait que ça aurait pu être un choix dicté par l'argent, même si ça c'est peut-être bien sûr le cas, mais comme quoi la Russie n'était pas une nation de football, alors que alors, au fil des années, que ce soit avec l'URSS et puis la Russie, on a quand même vu des joueurs exceptionnels passer par le maillot. Vous deux qui avez vécu en Russie, qu'est-ce que vous en pensez?
Alors, non, ce n'est pas une nation de foot. Après, Vincent a vécu dans une ville qui est quand même plus une ville de foot que la mienne. Non, ce n'est pas une nation de foot à proprement parler, parce que déjà, on a des débats savoir si la France est une nation de foot. Donc, si la France n'en est pas une, la Russie non plus. L'URSS était un pays de sport. Dont le foot faisait partie. La Russie est aussi un pays de sport. Le foot est le sport numéro un. Alors, le sport numéro un ex aequo, oui. Mais de là à en faire un pays de foot, c'est pas un pays de passionnés. Ça va regarder surtout des grands matchs à l'étranger. Ça suit pas forcément son championnat. Les stades sont vides à part quelques exceptions. Je pense qu'on, sans vouloir noircir le portrait, on n'est pas à proprement parler dans un pays de foot.
Bah, moi, je dirais plutôt qu'on est sur un pays de clubisme. Donc, les Russes sont un peu plus centrés sur les clubs que sur leur sélection nationale. Bon, c'est évidemment lié aussi aux résultats, étant donné que la Russie ne fait pas de bons résultats. Les derniers bons résultats, c'est l'Euro 2008. Hormis celui-là, c'est vraiment très moyen. Donc les Russes se reciblent en fait sur les choses qui fonctionnent à peu près. Donc c'est les clubs. Alors pas tous les clubs, hein. Il y a un noyau, on va dire un noyau dur quand même au niveau du championnat qui tourne autour de, allez, on va dire 6 clubs réellement. Les clubs de Moscou, de Saint-Pétersbourg, et puis on va rajouter le FK Krasnodar notamment, et puis après le reste suit derrière. Donc je dirais que il y a une culture quand même du clubisme qui est assez forte, mais en parlant de culture foot, si on compare évidemment avec l'Argentine, l'Angleterre, l'Espagne, etc., non évidemment.
Alors Adrien, tu as vécu à Tcheliabinsk, qui a une grosse équipe de KHL à Tcheliabinsk, le Tractor, qui a d'ailleurs le même nom en foot. Qu'est-ce qui fait que le hockey a pris le pas sur le foot dans une ville pareille?
Alors déjà, pour résumer, tout ce qui est à l'est de Moscou, à l'exception de Kazan, peut-être, c'est le hockey qui prend le pas. C'est le hockey qui a traditionnellement des résultats. En plus, on parle de Tcheliabinsk, on parle de la région. Donc Tcheliabinsk et Magnitogorsk, sans vouloir parler trop de hockey, c'est la meilleure école de hockey de Russie. Voilà, ça vient avec les résultats. Il n'y a jamais eu de club de foot. Il a évolué un peu en deuxième division. Il est en troisième division. Le club de hockey n'est pas un grand club niveau titre, mais les résultats sont plus là. Pour mettre en perspective déjà la différence, on est dans une ville d'1 200 000 habitants, une patinoire de 5 000 places. La plupart du temps, elle est pleine de stades. C'est 800 personnes dans un stade de 15 000 places. Donc déjà, on voit la chose. Bon, on parle d'un club de troisième division. Mais on trouvera des gens, des jeunes qui font du foot. On trouvera des gens, comme je le disais, qui vont suivre peut-être le Spartak, le Zénith ou des ligues étrangères. Mais c'est pas dans la culture parce que on n'a jamais vu de vrai foot à Tcheliabinsk. On n'a jamais vu de. Quand je dis de vrai foot, je parle de football de haut niveau, je parle pas de football vrai. Hein. et les gens n'y vont pas, ils savent pas forcément même qu'il y a une équipe qui joue dans le stade, c'est pas subventionné par la région ou trop peu. D'ailleurs, on dit souvent ils font des très bonnes demi-saisons. Il se dit que ils font pas la deuxième demi-saison pour pas monter justement, pour pas, parce qu'ils auraient pas le budget de monter. Et le hockey gagne ou est plutôt fort. Le foot n'existe pas, donc les gens se disent ici c'est le hockey. Et en fait, c'est aussi beaucoup d'auto-persuasion. Si on vous dit qu'ici c'est le hockey, ici c'est le hockey, suivant, ici c'est le hockey. Et ça va comme ça, ce qui n'en empêche pas. Par exemple, la section russe, on a 23 joueurs. Il y en a beaucoup qui sont nés dans des villes plutôt hockey, des villes loin de Moscou. Il n'y en a pas de Tcheliabinsk, mais Kamensk-Uralski, c'est pas très loin. Mais les jeunes partent à Moscou pour apprendre le foot, quoi, parce qu'il n'y a pas la culture.
Il y a sûrement un lien lié à la météo aussi, qui fait que le hockey est le sport dans les portions de Sibérie, qui fait que le hockey est le sport phare, quoi, dans ces régions.
Oui. Avant de laisser la parole à Vincent, qui connaît aussi bien la Russie, les sports en salle, donc le hockey, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de sports d'hiver, du biathlon, mais c'est aussi la réserve nationale de judo, il y a un peu de taekwondo, il y a du patinage de vitesse, donc on est à nouveau sur un sport d'hiver, mais c'est plutôt des sports de salle, quoi. Il y a un peu de volley, mais c'est surtout dans l'Oural, pas forcément à Tcheliabinsk, mais dans l'Oural, on a beaucoup de basket aussi, basket féminin, volley féminin, qui était très performant à une époque. Ouais, peut-être le sport d'intérieur, on va dire.
Oui, rajouter un petit peu d'infos, c'est vrai que le football a été concentré évidemment sur les grandes villes, donc Moscou, Saint-Pétersbourg, et aussi sur le sud du pays. On avait pendant l'Union soviétique des bons clubs, hein, notamment en Géorgie ou dans le sud de la Russie, des clubs qui tenaient et qui faisaient vraiment de belles perfs. Évidemment lié aussi au climat, hein. Évidemment, jouer au foot en Sibérie ou dans l'Oural, c'est un petit peu plus compliqué. Et donc c'est un peu plus ciblé. Donc je pense que le climat, évidemment, il joue aussi. Ouais.
Juste pour finir sur ce sujet, tu parlais de sport en salle. On voit de plus en plus de terrains construits indoor. Est-ce que ça peut peut-être apporter quelque chose de plus au foot russe dans ces régions sibériennes?
Oui et non. Oui, ça permet de jouer à certains moments. On va voir Krasnoyarsk qui monte en RPL, aller jouer le 5 décembre, la dernière journée de championnat avant l'hiver à Krasnoyarsk. Ça va pas être facile. Donc ça permet de jouer des matchs. Après, on est dans des manèges, comme ils appellent ça en russe. Quand il y a 5000 places, c'est un maximum. Les autres équipes n'aiment pas y aller. Elles font tout pour faire interdire cela. Donc je suis pas sûr que ça amène une grosse avancée, en fait. Ça peut permettre à certaines équipes de se maintenir et de continuer à jouer à un certain niveau, pas forcément d'y amener les gens. Voilà mon avis.
Et peut-être former les jeunes aussi.
Oui.
Pour parler sportif, on passe au 23 directement. Alors la préparation de la Russie a été moyenne, pour être gentil. Et le principal point de discorde, c'est évidemment la défense. Une défense qui semble totalement dénuée de qualité. Tcherchesov a même dû rappeler Sergei Inashevich, donc le recordman de sélection avec la Zbornaïa. Vincent, qu'est-ce que tu peux nous dire sur la défense? Et est-ce que, on en rigolait tout à l'heure, mais on se demandait si la Russie finalement était peut-être pas la pire défense de ce mondial?
Bah oui, c'est vraiment le problème majeur de cette équipe, c'est évidemment donc l'aspect défensif. À quelques jours de du mondial, en effet, on n'a pas encore réellement la vision de l'effectif qui va être présenté, notamment sur l'aspect défensif. Tcherchesov a fait pas mal de tests, notamment lors des trois derniers matchs, ce qui est bizarre, hein, ce qui est assez critiqué au pays, dans les médias. Donc il a joué d'habitude, normalement il joue sur un 3-5-2, donc une défense plutôt à 3 avec une possibilité évidemment de jouer en 5-3-2 après, etc. Donc ça c'est variable, mais là il a joué lors des derniers matchs avec une défense à 4, il a pas mal bougé. Koutiepov était à un moment donné joué, le jour d'après il a pas joué, donc c'est des joueurs qui sont déjà, qui n'ont pas un niveau international fantastique, hein. Ils ont peu de vécu à ce niveau, même en Coupe d'Europe, hein, il y a peu de vécu. Alors évidemment on parle de Ignashevich, mais Ignashevich, il est normalement, au départ, il ne devait pas être sélectionné, et il est sélectionné parce qu'il y a eu une blessure, donc il a fait un remplacement. Mais autrement, au niveau de la défense, oui, c'est assez lourd, c'est assez lent. On l'a vu face à la France, ça a pas tenu la baraque derrière, Et le pire, c'est que face à des équipes, on va dire inférieures, du type de l'Autriche, par exemple, où on a, où on a joué qui encore dernièrement,
Turquie.
voilà, la Turquie, exactement. C'est pareil, on a senti que dès que ça mettait un petit peu de rythme, tout de suite, ça savait pas trop où se placer derrière. Donc même face à des équipes inférieures, on a quand même la Russie a quand même de grosses difficultés.
Oui, il faut mettre l'accent sur le joueur sélectionné en défense. Alors, Kambolov s'est blessé, mais on avait au départ trois joueurs du Rubin Kazan. Alors, c'est une très bonne défense, quatrième défense du championnat, mais on parle d'une équipe qui a fini dixième à l'agonie, qui était pas loin de descendre, hein, dont Granat, qu'on n'avait plus vu depuis 3 ans, j'ai plus la date en tête, on n'imaginait plus revoir ce russe. Kudryashov, qui a connu sa première sélection, il devait avoir 28 ou 29 ans. C'est pas un mauvais joueur, mais c'est pas forcément un joueur pour le haut niveau.
C'est ça.
On rappelle Ignashevich qui va avoir 39 ans. On a un jeune Koutsepov qui tarde à confirmer, qui est bon au Spartak que quand il est bien encadré. Mais dès qu'il y a des problèmes au Spartak, il est un peu perdu. Il n'y a pas plus de défenseurs centraux que ça. Après, oui, quand on jouait à 3, on pouvait mettre Kudryashov qui est plutôt un latéral de formation, mais Smolnikov qui est plutôt un latéral de formation, mais qui m'a toujours beaucoup plus plu dans ses montées offensives que dans son placement défensif. On a vraiment un gros problème défensif, c'est clair.
Tcherchessov a dû aussi faire face aux blessures. Hein. Je pense que il devait aussi compter sur ce Georgijica qui joue au Spartak, qui s'est fait les croisés aussi cet hiver. Et ça, c'est une perte. Ça, par contre, c'est une perte parce qu'il est Gika était largement titulaire dans cette équipe. Il aurait mis un petit peu plus de solidité dans cette défense. Et donc ça aurait quand même apporté un petit peu plus ça aurait rassuré en tout cas comment ses partenaires. En plus, Koutiepov est habitué à jouer avec lui, donc à la limite, ça aurait été un petit peu plus simple. Là, sans Djika, voilà, on est un petit peu perdu. Donc Tcherchessov a dû faire aussi avec les moyens du bord.
Oui, bien sûr, mais pour terminer, il y a une blessure importante. Il y a deux autres blessures. Donc, on a cité Kambolov, qui est un joueur que j'ai toujours beaucoup aimé, mais c'est pas pour la Russie en Coupe du Monde. Et l'autre blessure, c'est Vassine. Vassine, c'est l'éternel remplaçant prêté des Ignashevich et des Berezovski. C'est pas, voilà. Il y a une grosse blessure, c'est Djikia. Après, les autres blessures, c'est pas forcément des joueurs qui étaient largement supérieurs à ceux qui sont là. Et c'est bien le problème, c'est le réservoir défensif.
Justement, est-ce que à ce niveau-là, la fédération a pas fait ce qu'il fallait pour mettre les. On a parlé des. Enfin, le 7 plus 4 qui fait beaucoup débat en Russie. Dans le dernier article, dans le dernier carnet de Russie, il y a un Russe donc, qui s'appelle Anton qui critique cette réforme des 7 plus 4. Donc, 7 Russes obligatoires sur le terrain pour 4 étrangers. Est-ce qu'à ce niveau-là, la fédération qui organise également le championnat, est-ce qu'à ce niveau-là, la fédération a manqué son rendez-vous avec son mondial?
Bah, moi, le 7 plus 4, j'en ai beaucoup parlé. Aujourd'hui, il y a des plus et des moins. Alors, il y a plus de Russes sur le terrain, mais les Russes sont plus sécurisés et sont sûrs d'avoir une place. Et les gros clubs achètent tous les Russes possibles pour être sûrs de les mettre sur le terrain. Et certains se morfondent sur le banc. On voit des joueurs, je ne parle pas de défenseurs, mais Kanounikov qui a disparu, qui se retrouve, bon, il vient de signer au PAOK, mais il se retrouve à Khabarovsk dans une équipe qui n'a pas gagné un match depuis quasiment un an. Je ne sais pas si ça a nuit plus que ça la défense. Hein. J'ai même pas trop de souvenirs de jeunes espoirs qui se sont gâchés en défense. J'en ai qu'un en tête, c'est un joueur que j'adorais, c'est Novosieltsev, qui a complètement disparu.
Il y avait Taras
Après,
Bourlak aussi à un moment donné qui était un bon espoir
oui,
russe et qui bon.
Granat aussi était un bon espoir à l'époque, hein, mais il s'est perdu. Moi, ouais, vraiment, mais je parle un peu plus jeune. Voilà, Novosieltsev, oui. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres espoirs? Est-ce que tu en vois, Vincent, des espoirs qui ont complètement déçu en
Bah non.
défense?
Bah non, malheureusement, justement, c'est tout le problème. C'est que la Russie n'arrive pas à former justement des joueurs. Défensif. Alors, je prends l'exemple du Spartak que je connais bien, mais les joueurs du Spartak 2 ont du mal à passer dans les comment l'équipe première. Donc ça manque d'expérience au niveau des jeunes. Donc évidemment il n'y a pas de il y a très très peu de jeunes qui peuvent jouer actuellement et ça fait énormément défaut à la seconde. Ouais.
Oui, même si on aime ça, ah, pardon. Même si on aime ça, le Spartak 2 comme le Zénith 2, ça gagne plus souvent 5-4 que 1-0, hein, en plus.
Tout à fait, tout à fait, c'est vrai.
Que
Et
devient un
je
joueur
voulais notamment revenir
comme
sur.
Morozov au Dynamo?
Ouais, Morozov, on en a beaucoup fait parce que c'était le jeune qui jouait au Dynamo sur le côté gauche dans l'aspect de tactique russe du Dynamo à l'époque. Ah, il n'a jamais été exceptionnel comme joueur. C'est juste qu'il est rentré, il s'est retrouvé titulaire. On a dit, ah, ben, il y a un jeune russe. Mais moi, Morozov, ce n'est pas un garçon que je voyais monter très haut et il n'est pas monté très haut.
Bah, c'est ça le truc aussi, c'est qu'on focalise vraiment aussi sur les jeunes. Donc, dès qu'il y a un jeune qui fait un bon match ou qui est légèrement au-dessus des autres, je prends par exemple l'exemple de Koutiepov. Voilà, il est mis au devant de la scène et tout de suite il est lancé avec l'équipe nationale. Bon, il n'y a pas de temps réellement d'adaptation au niveau espoir ou etc. Tout de suite c'est envoyé, bah, parce qu'il n'y a pas justement il n'y a pas suffisamment de joueurs à la fois d'expérience. En plus, si les joueurs se blessent, évidemment c'est compliqué. Pareil pour Jika, hein. Jika, il a que 24 ans, c'est pas non plus un joueur d'expérience. Voilà, avant le Spartak, il jouait pas non plus dans des gros clubs, hein, donc c'est que ça fait extrêmement défaut. Ouais.
On avait Tchernov au TSKA qui avait été appelé sans avoir jamais joué un match par
oui, tout à fait.
Par Capello. On a Karavaev, je sais plus où il est, je me demande s'il n'est pas parti aux Pays-Bas, Karavaev, après être passé par la République tchèque. Ouais, c'est bien ça. Après être passé par la République tchèque, ce sont des jeunes du TSKA, mais.
Bah, c'est un problème global, hein. De toute façon, la fédération a essayé d'organiser un petit peu le système en disant, bah, on va protéger les jeux, on va protéger justement nos Russes en mettant justement en place cette idée là du 7+4. Et puis, ça va leur donner de l'expérience, ça va les travailler. Sauf que, en fait, ils sont pas forcément concurrencés, ils se concurrencent pas énormément, ça n'augmente pas le niveau aussi du championnat, et on se retrouve avec une équipe nationale qui est pas prête.
Oui, pour terminer, la Russie, en fait, est là-dessus la copie conforme du CSKA. On a cru qu'on allait pouvoir tenir encore 40 ans avec deux Berezovski et Ignashevich.
Tout à fait. Ça, hein.
Le meilleur défenseur russe, c'est peut-être Fernandes. Hein. Bon, c'est pas le même poste, c'est
exactement. Il n'est même pas russe, on peut se dire à quel point.
Voilà.
En plus.
Et donc, je regardais là la sélection espoir, et franchement c'est pas glorieux non plus, hein. On a, donc tu parlais de Tchernov, il est bien sûr sélectionné, il y a deux joueurs de la réserve du Spartak, il y a un joueur qui joue à Chypre, il y a un joueur de l'Olympiad Nizhny Novgorod, un mec du Lokomotiv, un mec du Dynamo et un mec de la réserve de Krasnodar, donc même pour l'après Coupe du Monde ça risque d'être assez compliqué à ce niveau là et même quand on parle de ce qui est peut-être le meilleur centre de formation en Russie, Krasnodar, il n'y a pas un jeune qui semble pouvoir percer à ce niveau-là.
Non, c'est pour ça. De toute façon, honnêtement, je pense que s'il y avait un joueur dans l'équipe espoir qui était capable de percer à ce niveau-là, il serait là dans l'effectif de la Coupe du Monde à la place d'Ignashevich ou d'un autre.
C'est vrai, c'est vrai. Et alors, bizarrement, la défense qui contraste pas mal avec le milieu et l'attaque. Tu en parlais, Adrien, quand t'as fait le portrait des 23 joueurs qui aura peut-être paru quand ce podcast sera disponible sur Footballski. Tu te disais que sur le papier, c'était quand même plutôt pas mal au niveau des noms.
Ah oui, forcément, t'as un Zagoyev, un Gazinski qui est pas très connu mais qui est un très bon joueur, un Zobnin, alors j'en parlais avec un peu d'humour parce que je l'aimais pas du tout, je pensais pas qu'il percerait mais qui est un tout bon même s'il était quand même meilleur l'année dernière, t'as du Golovin, annoncé à la Juventus aujourd'hui, t'as les deux Miranchuk qui sont très offensifs mais super joueurs, après t'as Zhirkov et Samedov. Grosse expérience, même si Samedov, bon, il a pas raté un match de l'équipe de Russie depuis très longtemps, hein. Samedov, c'est un très bon championnat de Russie. Pas sûr que ce soit un joueur pour affronter le Brésil, hein. Mais rien à voir avec la défense sur le papier, parce que Vincent en pense, mais.
Bah, au niveau individuel, oui, ça ressemble à quelque chose. Sur le papier, ça donne quelque chose. Maintenant, moi qui ai vu tous les matchs de la Sborna, ça donne pas grand-chose sur le terrain. Ils ont du mal à se trouver. Je veux dire, sur les trois derniers matchs là que j'ai vus, déjà les statistiques sont familiques. Déjà, il y a eu un seul tir en 120 minutes de jeu. Il y a des organisations au niveau de l'aspect offensif. Il n'y a pas de plan de jeu. Les joueurs sont incapables de tenir le ballon au milieu, etc., etc. Donc, Golovin et notamment Zagoev, etc. En effet, ont du ballon. Vraiment, on doit se poser le jeu sur eux. Mais maintenant, il faut vraiment qu'ils se montrent, il faut vraiment qu'ils apportent vraiment cette expérience à l'ensemble de l'effectif, parce qu'actuellement, en termes collectifs, franchement, la Russie n'y est pas du tout là.
C'est le problème du changement de dispositif aussi récent.
Tout à fait.
Un changement de dispositif.
Tout à fait. Ça pose la question. Tchetchessov a du mal à expliquer ça. Voilà, il arrive à quelques jours du mondial et puis il change la compo, il change le système de jeu. Personne n'a réellement compris ce qu'il a tenté de faire. Et en plus, ça a pas fonctionné. Mais j'ai l'impression que surtout sur le banc, il est un peu perdu, quoi. Lors du match face à la Turquie, il était en train de faire les 100 pas. Au moment où Samedov a marqué le but, il a fait le signe de croix, etc. Donc, on sent pas un entraîneur vraiment confiant. Alors, il a beau dire après en conférence de presse que tout va bien, que c'est normal, que c'est la préparation, qu'il a fallu évidemment aussi l'aspect physique durant la préparation, ok, mais sur le terrain il s'énerve, il tourne autour de son banc, il est pas content, donc on sent vraiment un Tchetchessov aussi qui sait pas ce qu'il veut faire, mais j'ai l'impression qu'il voudrait aller sur le terrain et dire bon bah toi tu vas là et toi tu fais la passe là, quoi.
Oui, et puis oui, pour en revenir, parce que je citais l'effectif, j'ai oublié deux joueurs. Bon, il y a le jeune Kouziaev et Yerokhin aussi, qu'on ne voit pas d'ailleurs, qui est un tout bon, mais qu'on ne voit pas dans les matchs de préparation.
Bah, il y a Chelyshev aussi qui n'a pas fait une minute. Yerokhin qui n'est pas rentré. Comment les frères Mirlanchuk qui rentrent à la 75e, 80e, alors que dès qu'il rentre, tout de suite, ça apporte quelque chose au niveau offensif, au niveau technique. Ils amènent vraiment leur capacité offensive tout de suite. Ça se voit dans le jeu. Mais ils commencent pas un match.
Mais ça vient avec ça. Je vais me poser une question. C'est que oui, il y a toujours 5-6 clubs qui dominent en Russie, mais en général, tu avais 1-2 clubs qui surdominaient pendant 2 ans. Et on avait une ossature. Et là, aujourd'hui, les 5-6 clubs sont à peu près au même niveau. Et tu as un joueur d'un club, un joueur d'un autre, deux joueurs d'un autre. Alors, c'est toujours comme ça en sélection. Mais peut-être que la Russie n'est pas habituée et qu'on n'arrive pas à mettre une osmose dans les milieux de terrain qui viennent de clubs qui pratiquent des footballs en plus très différents. Entre Krasnodar, le Zénith, le Spartak, le CSKA ou le Lokomotiv.
Oui, c'est vrai qu'un Zobnin, par exemple, dans le milieu de terrain, il est utile, mais voilà, il est bien quand il est entouré d'un Fernando qui fait le travail derrière, donc lui peut avancer devant. Là, on voit bien que dès que Zobnin a le ballon, il veut aller vraiment vers l'avant, mais il sait pas quoi faire, quoi, avec le ballon devant, ça demande pas. Au niveau attaque, Smolov est actuellement la seule variante possible. D'ailleurs, Dzuba n'a pas fait une seule minute non plus de préparation. Je crois pas qu'il est rentré une seule fois d'ailleurs. Ou si peut-être il a peut-être fait un petit bout de match enfin à la fin de du Russie-Autriche peut-être.
Ouais, il est rentré en même temps. On annonce 3 attaquants. Alors on est passé aux attaquants avant que Quentin nous en parle. Mais on annonce 3 attaquants sur la liste en annonçant un Mirantchouk en attaque. Il y a vraiment que 2 vrais attaquants dans les 23, c'est Smolov et Dzuba. Il n'y a pas d'autre alternative.
Deux pointes, non, pas grand monde. Non, c'est vrai.
En même temps, on voyait Zabolotny récemment. Donc, non, pas Zabolotny, si, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom.
Si, c'est ça du.
Zabolotny, de Tosno, mais du Zénith, quoi.
Et pourquoi pas de Andrei Panyukov? C'est la vraie question de cette liste des 23. Où est Andrei Panyukov?
Il faut demander à Ajaccio, il doit en avoir des souvenirs. En même temps, quand on voit le petit frère, mais ils sont jumeaux, Mirantchuk, on n'attendait plus rien et qui est passé par le Levadia Tallinn, et il est revenu, il est en équipe de Russie. Donc Panyukov, c'était pas forcément le plus mauvais des choix d'aller en Lituanie.
Tu parlais tout à l'heure de Zobnin. Au niveau milieu de terrain, on a quand même une sorte de déséquilibre assez impressionnant entre les milieux de terrain à vocation offensive, où là on a pas mal de joueurs qui savent taquiner le ballon et tout ça, mais on n'a pas beaucoup de milieux de terrain à vocation défensive.
On a Gazinski avec Zobnin. Zagoyev, il peut jouer défensif aussi, hein. Il taquine le ballon, mais il peut jouer défensif, mais t'as un Gazinski aussi. Alors c'est une surprise qu'il soit là, mais s'il est là, il faut l'utiliser. Il est très utilisé à Krasnodar, parce qu'il est utile, il fait le travail de l'ombre, donc on a quand même une alternative à Zobnin.
Alors, il a joué contre, contre la Turquie, si mes souvenirs sont bons. Bon, après, il a pas, bon, il a fait son taf, quoi. Il a fait son taf, mais face à la Turquie, on, qui arrivait franchement avec une équipe B, hein, il y avait la Turquie, c'était quand même pas, c'est pareil pour l'Autriche, hein, c'était pas les, les meilleurs joueurs qui étaient sur le terrain. Donc, on attendait autre chose, évidemment, un jeu beaucoup plus offensif. Et sur ce plan-là, Jasinski, c'est vrai que c'est pas forcément ce qu'il peut faire, quoi. En termes défensifs, c'était bien, mais on attendait franchement bien mieux, notamment contre la Turquie, qui avait amené franchement une équipe B, quoi.
On parlait des absents tout à l'heure en défense. Il y en a un quand même. Le principal sûrement de, ces, de cette liste, lui aussi qui s'est fait les croisés, on parle évidemment d'Alexander Kokorin. Est-ce que par rapport à, je ne vais pas dire l'abondance de talent qu'il y a devant et au milieu de terrain offensif, est-ce qu'il manque quand même de, dans cette sélection de par son expérience.
Je ne sais pas s'il manque dans le jeu. Je ne sais pas s'il il manque dans le jeu, mais le joueur manque après avoir gâché son talent, fait n'importe quoi... avoir été pas toujours au niveau attendu. Il était en train de faire une grande saison à son niveau et il se plaît à ce moment-là. C'était le joueur qui pouvait, pouvait amener un plus à la Russie pour moi. Pourtant, je n'ai jamais été un grand fan de Kokorin, mais oui.
Ouais, bah oui, je suis absolument d'accord avec Adrien. Et il était vraiment dans sa bonne année. Dans son, c'était le moment pour lui vraiment de percer, vraiment de faire la différence. Il pouvait apporter aussi comment un, autre chose dans le dans le dans le système de Tchetchessov, notamment de jouer à deux et peut-être de pouvoir permettre justement à Mironchuk de reculer peut-être et de jouer un petit peu plus dans le milieu. Là en fait Tchetchessov, il a plus trop choix quoi. Donc c'est vrai qu'il manque énormément bien sûr.
Alors justement, si vous deviez faire un 11 type pour le premier match contre l'Arabie Saoudite, quel serait-il, quel système déjà choisir puisque Vincent nous disait tout à l'heure qu'il y avait un changement.
Ouais, pour moi, il faudrait repasser dans, dans une défense à 3, puisque c'est ce que la Russie sait faire depuis pas mal de temps. Après, dans une défense à 3, tu mettrais qui c'est peut-être le système le moins handicapant pour Ignashevich, qui t'a joué dans une défense à 3 et t'as que 3 stoppers de toute façon dans l'effectif. Donc Ignashevich, tu mettrais avec un Koutiepov et un Kudryashov. Alors, c'est pas que ça m'enchante, mais c'est un peu ce qu'il y a. Hein.
Bah, c'est celui qui a fait à peu près la, les, mêmes, les meilleures performances actuellement hein, lors des derniers matchs. Donc moi je mettrais oui en effet cette défense serait à peu près la meilleure. Oui.
Ouais, Koudryashov sur l'axe gauche, Koutiepov sur l'axe droit du coup. Derrière c'est compliqué, hein, ça dépend de l'adversaire aussi. Jirkov à gauche.
Fernandez à droite.
Ouais, Fernandez à droite. Et derrière Zobnin, Golovin, Zagoyev, Miranchuk.
C'est ça.
Et Smolov devant.
Franchement, sur le papier, c'est...
Ouais, moi, c'est...
offensivement, c'est... enfin, y a du potentiel. Quoi. Ce serait dommage de gâcher ça, mais il y a quand même du potentiel ballon.
Ben oui, bien sûr, c'est... Ouais, bien sûr, y a du potentiel. On a vu Golovin cette année, c'est très, très intéressant. Maintenant, je le répète, c'est, ça reste le problème du collectif. Le collectif, jouer ensemble, trouver Smolov... notamment devant qui peine, je trouve qu'il y a peu d'occasions de frappe aussi, ça frappe très très peu et pourtant il y a quand même des joueurs qui frappent bien donc là ouais non je comprends pas au niveau collectif c'est vraiment très très faible.
Et à ce niveau-là, est-ce que Tcherchesov était l'homme de la situation après le départ de Souski?
Il fallait un Russe déjà, même un Biélorusse ça s'est pas forcément passé, un Russe ou un habitué du championnat russe, mais est-ce que je vois quelqu'un d'autre là comme ça à l'époque? Moi non, Sema qui n'était pas encore ce qu'il est devenu.
Oui. Ouais. Alenichev, comment et Tikhonov, mais c'est encore jeune, ça débute entre guillemets, donc c'est non, c'était pas possible à comment dans la pour la Sbornia, donc c'est vrai qu'il y avait pas tant de choix pour le poste d'entraîneur et ça pose problème aussi à ce niveau-là hein. C'est la qualité des entraîneurs. Alors là il y a des entraîneurs qui arrivent au niveau du championnat mais actuellement voilà des entraîneurs avec de l'expérience même à l'étranger c'était en effet c'était Tcherchesov qui avait l'expérience notamment avec le Legia à Varsovie donc à part lui il y avait pas grand monde hein.
Ouais, Karpin, voilà.
Peut-être pas quand même.
Donc c'était finalement le qui l'a congrès, c'était le moins mauvais choix.
C'est ça.
C'est ça. Ouais. Non, il y avait les deux Biélorusses, Goncharenko et Kononov, mais c'était bon, ça reste proche. Ça connaît bien le championnat russe. On aurait pu parler de Berdiev, mais je suis pas sûr que c'est quelque chose qui l'aurait intéressé. Tcherchessov, pour moi, le choix s'imposait. Faute de merde, on mange des grives.
Ce qu'on retient du débat, c'est que l'objectif, c'est de se qualifier avec 3 matchs nuls 0-0 et d'arriver en finale jusqu'au tir au but après à chaque match, quoi.
C'est ça, vu ce qu'on a vu sur les matchs de préparation. Mais après, le point fort, ça devrait plutôt être l'animation offensive. Donc, 0-0, encore une fois, je ne suis pas sûr que ce soit la défense avec laquelle il faut aller jouer le 0-0.
Non, très clairement, ils attendent la Russie, évidemment, espèrent tous de passer au moins la phase de groupe. Juste pour l'honneur, hein. C'est quasiment une question d'honneur là que le pays organisateur se fasse pas sortir dans la phase de groupe. Après, c'est que du bonus, mais ils peuvent tomber contre l'Argentine, je crois, ou l'Espagne. Non, pas contre l'Argentine,
Espagne,
contre l'Espagne.
Portugal, je crois.
Voilà, contre l'Espagne ou le Portugal. Bon, si ça passe, là, ce sera un exploit retentissant. Donc.
Après, je pense qu'ils comptent surtout sur le match contre l'Arabie Saoudite, que le match soit pas trop dur, qu'il tourne en leur faveur et derrière. Sur l'enthousiasme des fans derrière la victoire contre l'Arabie Saoudite, de porter l'équipe et d'aller plus loin comme ça. Quoi. C'est une aubaine hein, de commencer contre l'Arabie Saoudite. Après, ça peut être à double tranchant. Hein. Si tu perds,
c'est
ça ruine ton mondial direct.
Tout à fait. Parce que derrière l'Uruguay, je pense pas, évidemment, avec le potentiel offensif qu'a l'équipe avec les Cavani et Suarez, ça va être très compliqué derrière. Et puis l'Égypte, non, l'Égypte, il faut. Faut regarder ça avec grand sérieux. On ne sait pas ce que Salah va donner évidemment sur le terrain. Il sera titulaire, j'imagine. Maintenant, qu'est-ce qu'il donnera ? Mais rien que le fait de le voir sur le terrain, de toute façon, il poussera ses coéquipiers. Donc, l'Égypte sera de toute façon compliquée à jouer.
J'ai peur du duel en contre en vitesse entre Salah et Nachevic.
T'as peur, mais on a surtout peur pour la santé avec Nachevic. Parce qu'il va perdre une jambe, deux, peut-être un rein, un bras. Mais
l'ambulance est pas loin.
Comme tu le disais, le premier match contre l'Arabie Saoudite va être prépondérant. C'est soit l'occasion de lancer sa Coupe du Monde, soit tu hypothèques grandement tes chances de te qualifier et ensuite il faut faire un exploit contre l'Uruguay. Donc la victoire est impérative face à l'Arabie Saoudite.
Oui, et puis une victoire contre l'Arabie Saoudite un petit peu large parce que c'est ce qu'espèrent les Russes. Tu gagnes 2-0, 3-0 en fin de match. Derrière, t'as tout le pays qui est en feu. Tu rentres sur le terrain, c'est plus la même équipe quoi. Derrière contre l'Uruguay, tout devient possible même si l'Uruguay est supérieur. C'est ça, il y a des crescendo. Quoi.
C'est, tout à fait.
Le soutien populaire, après on le sait. Hein. Toujours, non, je crois que l'Afrique du Sud a été la première équipe à ne pas passer les poules en jouant à domicile, mais en général, ça aide quand même.
Et heureusement qu'il y a peut-être un précédent à ce niveau-là parce que bon, la Russie. On a parlé de ses qualités, de ses défauts, mais il y a quand même des chances qu'elle ne passe pas les poules, finalement, de par ce qu'elle montre au niveau de sa préparation depuis octobre, finalement, puisqu'elle n'a pas gagné depuis octobre, malgré les gros adversaires qu'elle a joués depuis cette victoire contre la Corée du Sud. Il y a quand même des chances que ce soit un gros fail, cette Coupe du Monde, pour la Russie.
Oui.
Concernant en effet, si la Russie se plante, ce sera évidemment une sacrée contre-performance. La fédération, ça va bouger de partout, notamment Vitali Mutko qui est évidemment déjà très 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 critiqué déjà dans sa gestion de la politique sportive du pays puisqu'il était ministre et président de la fédération. Donc évidemment ça va voltiger, il va y avoir des critiques de toutes parts. Hein. Je pense que j'ai notamment le souvenir notamment de Vladimir Poutine en train de faire une réflexion au président du club du Zénith lors d'une réunion de travail durant laquelle il ne comprenait pas pourquoi il y avait autant d'Argentins qui jouaient lors d'un match d'Europa League. Et le président avait président du Zénith avait déclaré vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, ça ira quoi. Donc je pense qu'il va y avoir des retours de bâton qui vont faire très très mal. Ça va bouger alors. Après ça bouge comme ça. La Russie a toujours fait en sorte de virer comme ça d'un coup. Ça vire très très vite. Hein. Ça ça réfléchit pas. Maintenant, est-ce que ça organise, ça peut se réorganiser correctement pour redonner un élan à cette fédération qu'on a bien besoin, ça, après, je sais pas.
Ouais. C'est Golovin qui a joué 19 matchs en sélection. Il en a, donc c'est les derniers matchs, hein. Il en a gagné 4, dont les deux premiers, hein, en 2015 et en 2016. Et les deux premiers, il avait marqué. C'est ses deux seuls buts. Et donc, depuis mars 2016, et en rencontre contre la France, perdu 4-2. Il a joué 17 matchs en sélection, Golovin, qui est loin d'être le plus mauvais. Il en a gagné 2 matchs. Pour dire quel est l'état de forme de la Russie sur les 3 dernières années.
D'ailleurs, dans un de ses buts, je crois qu'il y avait l'ogre biélorusse face à lui.
Oui, c'est sa première sélection à l'époque où il avait peut-être 5 matchs de RPL. Je faisais référence avec la sélection de Tchernov. C'était Capello qui, sachant plus quoi faire, appelait tout le monde, même des joueurs de deuxième division.
Mais d'ailleurs, je regardais tout à l'heure, Tcherchesov est le pire, au niveau du taux de victoire, est le pire entraîneur avec plus de 10 matchs. À ce niveau-là, je crois qu'il a 25% de victoire. Il a quand même joué contre des grosses équipes ces derniers temps, mais quand même.
Oui, il a une victoire contre la Hongrie et la Nouvelle-Zélande.
Il y a un match nul contre l'Espagne. Bon.
Oui, contre la Belgique aussi, il y avait eu un nul.
Enfin, les Espagnols étaient pas venus non plus voilà, ils avaient pas mis le paquet, hein, lors du match. Hein, c'était pas non plus un match fantastique. Ils avaient très bien joué la première période, et puis la deuxième période, ils avaient été un petit peu plus en dilettante côté espagnol. Donc, c'est à ce moment-là que la Russie avait pu revenir de 2-0 à 2 partout.
Mais de toute façon, je pense personne dans ce podcast dira que la Russie est au niveau de l'Espagne malgré ce match nul, hein. Donc,
que non.
Les chiffres sont têtus.
On va évidemment pas oser.
Alors pour finir ce petit podcast, on va évidemment terminer sur un pronostic.
De mon côté, je dirais un huitième de finale face à l'Espagne, par exemple. Ce serait bien. Et puis en espérant qu'il marque les esprits en groupe lors de la phase de groupe. Bon, je pense quand même que face à l'Arabie Saoudite lors du premier match, voilà, je pense qu'ils vont réussir à accrocher cette victoire. Après voilà, il faut pas non plus trop en demander quand même.
Il faut pas faire comme en 2012 non plus, quoi. C'est mais oui, moi j'imaginerais bien une victoire poussive de la Russie contre l'Arabie Saoudite, un peu à l'arrache, 1-0, et derrière ils passent, on sait pas trop comment. Un peu le style de la France 2006 dans son groupe avec la Corée du Sud, et puis finalement on passe contre le Togo. Un peu dans ce style-là, et derrière une sortie avec les honneurs. Un bon 8e contre l'Espagne où la Russie se met à bien jouer, mais trop court face à l'Espagne.
C'est pas en prolongation.
Moi je dirais ça comme ça, par exemple.
Oui, ou une courte défaite avec les honneurs, comme on aime bien dire. Mais un match serré où.
Ou une boulette de Hakim Fief. Ouais.
Non, mais un match où tout le monde va dire, même en Russie, que la Russie va en prendre 7, et puis finalement, ils vont être pas très loin de passer, quoi. C'est ça que j'imagine.
Parfait. Bah pour résumer, on peut dire qu'on n'est pas très optimiste, hein, nous trois, sur le parcours de la Russie. Je vais vous remercier, messieurs, d'avoir été avec moi pour cette petite présentation de la Russie.
Merci
Bonne
à toi.
Bonne Coupe du Monde à vous.
Merci. On va
vous espérer que vous allez travailler un peu plus qu'une semaine sur le site.
On l'espère, oui.
Ouais, sinon je repartirai par l'Albanie. Hein.
Bon, messieurs, à la prochaine. Adrien, Vincent.
À bientôt et bonne Coupe du Monde à tous sur Football Ski.
Merci, au revoir Quentin. Salut.